Dépêche AFP d'aujourd'hui, 19 juin 2008. Le ministre de l'Immigration, Brice Hortefeux, a annoncé aujourd'hui une augmentation de 80% des reconduites à la frontière d'étrangers en situation irrégulière pour les 5 premiers mois de 2008 par rapport à la même période de 2007. Voilà, ça a passé au journal où j'ai pas entendu. Par contre, c'est vrai que pas mal d'informations sont passées sur les Bleus, hein, dis donc. Waouh, les Bleus. Eh ben, les Bleus, ils rentrent chez eux. Ça veut dire que il y aura pas de sentiment de fierté nationale à l'issue de l'Euro 2008. Ça tombe bien, je crois que c'est pas du tout le moment d'avoir un sentiment de fierté nationale. C'était Gilles de Paris, salut.
Et donc, on a, je crois, en direct, attention, le ministre des expulsions. Attention, on l'écoute. Le ministre des expulsions.
Alors, très concrètement, en une année, c'est-à-dire du 1er juin 2007 au 31 mai 2008, nous avons reconduit dans leur pays d'origine 29 729 immigrés clandestins. C'est un résultat, c'est vrai, sans précédent, en augmentation de 31% par rapport à la période de juin 2006 à mai 2007. Les résultats sont encore plus précis si l'on se réfère aux chiffres dont nous disposons pour les premiers mois de l'année 2008. Sur les 5 premiers mois écoulés, le nombre de reconduites s'élève en effet à 14 660 contre 8 117, comme vous le voyez, sur la même période de 2007. C'est une hausse de 80%. Il faut être clair, ces chiffres sont tout simplement le signal et la preuve que, conformément à l'aspiration, à la volonté de nos concitoyens, la France parvient à maîtriser tout à fait calmement ces flux migratoires.
Calmement ? Mais qu'est-ce que c'est ce délire ? Calmement ? Alors que les gens sautent par les fenêtres ? A-t-on oublié Shulan, la chinoise, l'enfant tchétchène ? C'est hyper calmement qu'on expulse des gens, hein ? Ciao.
Bonjour, je tombe sur un texte intéressant que je vous lis. Car enfin, il faut en prendre son parti et se dire une fois pour toutes que la bourgeoisie est condamnée à être chaque jour plus hargneuse, plus ouvertement féroce, plus dénuée de pudeur, plus sommairement barbare, que c'est une loi implacable que toute classe décadente se voit transformée en réceptacle où affluent toutes les eaux sales de l'histoire, que c'est une loi universelle que toute classe, avant de disparaître, doit préalablement se déshonorer complètement, omnilatéralement, et que c'est la tête enfouie sous le fumier que les sociétés moribondes poussent leur chant du cygne. Donc Aimé Césaire, 1955. Voilà, Estelle de Perpignan.
Oui, bonjour à toute l'équipe de la BCG Suisse. À ce sujet de la directive retour, dite la directive de Lente, qui permet donc d'incarcérer les étrangers en séjour irrégulier, donc de les incarcérer pendant plus de 18 mois, de leur interdire le territoire européen jusqu'à 5 ans, dans des conditions vraiment inhumaines. Donc quelqu'un qui n'a rien fait, qui n'a commis aucun délit, peut être emprisonné 18 mois, c'est vraiment encore un grand progrès humain. Et bien au sujet de cette directive retour, elle a été adoptée par le Parlement européen. Et je tiens à apporter à la connaissance de tous les auditeurs de la BCG Suisse que les députés PS français au Parlement européen, une série de 11 députés, ont voté pour cette directive. Ils ont rejeté l'amendement qui avait été déposé par le groupe Gauche Unie Européenne. Alors, des noms connus, comme par exemple Michel Rocard, on en entendait pas moins, mais aussi Harlem Désir, hein, on se rappelle de « Touche pas à mon pote », et on voit que ce personnage vote cette directive.
Salut Daniel, salut toute l'équipe de la BCG Suisse. Eh bien voilà, après le président de Bolivie, Morales, c'est le président Chavez qui réagit par rapport à la directive européenne, et c'est assez intéressant parce qu'il dit que voilà que le pétrole, eh bien, il le donnera pas aux Européens. Et puis surtout, il a dit, le retour des investissements européens, si on renvoie les sans-papiers, il n'y aura pas d'investissement européen au Venezuela. Donc ça, c'est une bonne chose. Au moins deux présidents dans ce monde qui réagissent par rapport à l'ignominie européenne. Voilà, je suis assez content. Et il faut rappeler qu'aujourd'hui, c'est la journée de la solidarité aux demandeurs d'asile. Donc ici, à Grenoble, on va organiser un soutien aux sans-papiers. Donc avec RSF, en fait, tous les réseaux qui s'occupent de la défense des sans-papiers et le nôtre qui est la DARPAP. Voilà, alors bisous à tous de Grenoble et bon courage, la lutte continue. Ciao.
Eh ouais, 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 c'est des sources AFP, Libération, etc., qui reprennent effectivement cette déclaration du président vénézuélien Hugo Chavez qui menace de mettre fin aux livraisons de pétrole vers les pays européens si ces derniers appliquent la directive retour aux étrangers en situation irrégulière. Cette directive retour, on l'appelle aussi la directive de la honte. Vous le savez, le Parlement européen a adopté cette directive qui prévoit une rétention jusqu'à 18 mois pour les sans-papiers présents sur le territoire européen. Donc, l'avenir, c'est la prison pour l'Europe. L'horizon, c'est la prison, c'est le camp. Voilà des domaines dans lesquels on peut investir, des secteurs entiers de l'économie. Il y a la construction des prisons, il y a l'établissement de ces camps, mais il y a aussi les personnels, les matériels, etc. C'est donc un secteur dans lequel il est judicieux, sans doute, d'investir. Alors, cela dit, pour l'instant, cette directive ne sera pas appliquée en France. C'est au moins ce qu'a promis M. Brice Hortefeux. Il s'est engagé à ne pas modifier la législation française actuelle qui est de 32 jours seulement. 32 jours seulement. Alors ces 32 jours, on va voir ce que ça donne. On a commencé hier avec le reportage de Pascal de Pascariello. Qu'est-ce qui se passe dans un centre de rétention administratif français? On a vu le premier volet hier, comment on y vit. Pascal a réussi à entrer dans l'un de ces centres de façon tout à fait interdite et clandestine. C'était elle la clandestine là pour le coup. Et aujourd'hui, on est au terme des 32 jours en question et on va retrouver Gloria Ali, cette femme albanaise, avec ses deux petites filles, Sarah et Léa, donc en leur 32e jour, puisque monsieur Hortefeux limite à cette durée. Il a fait des déclarations, vous le savez, un auditeur faisait allusion dans un message, vous venez de l'entendre, et il est très 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 content de lui, monsieur Hortefeux. Il considère lui-même qu'il a un excellent bilan. Voilà, c'est notre sujet du jour. Je voudrais dire autre chose, mais qui n'a vraiment rien à voir, tout à fait autre chose, c'est Chomsky et compagnie. Oui, vous savez, vous avez souscrit, nombreux amis modestes et géniaux, vous êtes devenus des SMG, des souscripteurs modestes et géniaux, et la souscription s'est arrêtée le soir du 18 juin à minuit. C'est fini et c'est un succès. Les DVD sont en route, vous allez les recevoir dans les jours qui viennent. Et alors on a les noms des deux, souscripteurs. Le premier, c'était Philippe Labrosse, qui a donc souscrit il y a un an. Il a attendu un an, il va recevoir son DVD. Et puis la toute dernière, à minuit moins 10, ce 18 juin, c'est Marie-Claude Gabory. Voilà. Et entre les deux, il y a eu quelques milliers d'auditeurs qui sont devenus donc des souscripteurs modestes et géniaux et qui ont permis à ce DVD d'exister. Et ce dont, évidemment, nous vous remercions. Alors, vous allez les recevoir. Et ce qu'on attend avec très grande impatience, c'est vos réactions, vos critiques, vos analyses, etc. Et ça, vous pourrez les exprimer sur notre site non officiel, sur labas.org. Voilà. En route, donc, pour ce centre de rétention administrative avec Pascal Pascariello. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la base où j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, salut les AMG. À propos de la fermeture programmée des 50 garnisons en France, je propose à ce bon Nicolas, notre président, à Poré, que ces espaces soient consacrés à la création de nouvelles prisons destinées à recevoir les sans-papiers, les voleurs de pommes et autres grands criminels de droit commun, en attendant d'y jeter les mecs comme toi et moi, coupables de faits de grève, d'appel à la lecture lucide du projet sarkozien. Et avec la bande à Sarko au pouvoir, nous sommes dans la merde, c'est vrai, mais rien ne nous empêche de les entraîner avec nous. Salut et vive la révolution. C'était Maurice du Puy-de-Dôme.
Alors j'ai appris que M. Delanoë avait offert à Jérusalem une fontaine au nom des Parisiens. Je suis parisienne, je me sens pas du tout concernée, mais mon argent y est passé. Maintenant, il veut privatiser les poubelles. Alors vraiment, j'avais voté pour lui, mais c'est fini.
Ben, je voudrais dire bonjour et bravo à toute l'équipe d'abord, c'est la première fois que j'appelle. Et puis, juste une petite idée, là, Sarkozy, il veut que l'Irlande revote là, pour le référendum. Et nous, on ne pourrait pas voter pour lui ? Allez, ciao.
Le 26 juin 1908 était né Salvador Allende. Je pense que pour ses 100e anniversaire de sa naissance, ça pourrait être intéressant de faire une partie d'une émission ou une émission sur lui. Dans une époque où les valeurs morales de ceux qui dirigent des nombreux pays dans le monde, c'est assez intéressant de voir comment ils se sont comportés. D'autres. Voilà.
Je vous appelle donc pour l'info qui est passée inaperçue. Donc le grand marché de Marseille, il s'appelle le marché du soleil, a brûlé hier, laissant les commerçants au chômage et sous le choc. Heureusement, il n'y a pas eu de mort dans cet incendie. Et aucune chaîne de radio ou de télévision n'a relayé d'infos, et même pas France Inter, ce qui m'étonne fort. Pourquoi ? Parce que ce sont des musulmans ou des arabes, alors ça n'intéresse personne. On leur réserve le même sort qu'aux Palestiniens ou aux Irakiens, personne n'en a rien à faire. Eh bien, moi je tenais donc à alerter donc les auditeurs de là-bas si j'y suis, pour qu'ils soient solidaires. Je vous remercie Daniel, et merci pour vos émissions. Bonne journée et à bientôt.
Salut Daniel, dernier jour pour s'inscrire au Tour de France Alternatif pour une planète non dopée. Pour participer à ce relais cycliste, qui est fait pour les non-sportifs, à faire en famille éventuellement, il suffit d'aller sur le site www.altertour.net. Et là, on fait son choix parmi les 24 étapes et un programme de conférence et de festivités sur la biodiversité et sur toutes les formes de dopage qu'il faut éviter. Voilà, à bientôt.
Bonjour, un petit message de Bruxelles pour prévenir tous les compatriotes de notre plat pays que le prochain repère des auditeurs modestes et géniaux de là-bas, si j'y suis, aura lieu le mardi 24 juin à 20h30 à la maison du PAC, espace citoyen à Watermoile-Boisfort, Bruxelles. L'adresse c'est 71 rue Middelbourg. On vous y attend très nombreux, l'ambiance ça va être chaud, intense, chatoyeux et joyeux, et on sera accompagné pour ce repère par le groupe de chansons françaises Afota, qui va ponctuer les débats par ses morceaux festifs, satiriques et engagés. Voilà, pour toute info, vous pouvez appeler le 02 663 79 80. À bientôt, merci.
À l'occasion de la fête de la musique, venez nombreux samedi 21 juin, place Clémenceau à 16h à Pau. Nous jouerons ensemble une partition nouvelle où slogans et chants de lutte seront joliment orchestrés. Les instruments autorisés sont tout ce qui fait du bruit pour répondre sans complexe au tohu-bohu généralisé. Casseroles, instruments divers, trompettes, etc. Citoyens, citoyennes, une autre musique est possible. Faisons-nous entendre le jour de la fête de la musique. Rendez-vous à Pau, 16h, place Clémenceau. À bientôt.
Parleur, c'est un aspect tout à fait pratique, parce que vous avez des personnes qui vivent en communauté dedans, vous avez quand même entre 40 et 140 personnes, ça fait quand même un bruit qui est pas négligeable. Quand vous appelez avec un haut-parleur, bon, mais de suite, ça, c'est comme dans un aéroport, hein. Je veux dire, ça provoque une cassure et les gens écoutent.
Moi, quand je suis arrivée, je ne savais même pas que ça existait, le centre de rétention, parce qu'il est à proximité de l'aéroport, donc voilà. Ben, c'est un bâtiment, c'est des Algéco, plus ou moins, entouré d'une enceinte avec des barbelés. Je ne connaissais pas ça de la France, et franchement, ça m'a ouvert les yeux sur ce qui se passait vraiment. Mais je crois que ce qui s'est passé à Fontaine-Saint-Martin, c'est un peu ça aussi. Pour bien des familles, ça a été une surprise de voir qu'on en était là aujourd'hui en France. Et je crois qu'il y a une prise de conscience assez violente, parce qu'on ne s'imaginait pas tout ça. D'expulser des gens qui avaient une forte volonté d'intégration et qui, pour qui tout se passait bien, je crois que ce n'est pas le désir des Français.
Salut, c'est Daniel Mermel, là-bas, si j'y suis, avec Pascal, Pascariello, Léa, Sarah. Au revoir, les enfants.
Flight number 2, arriving from...
Mathis, tu manges des gâteaux?
Mathis.
Bonjour, Mathis. Toi, t'es bien plus grand que Sarah?
Oui. Notre maîtresse, elle nous a expliqué, nous a dit qu'elle a été renvoyée, mais... elle a encore une chance. Et maintenant, on fait des rassemblements pour essayer qu'elle revienne dans cette école.
Je crois que c'était un mardi. Elle nous a expliqué qu'il y avait une petite fille qui s'appelait Sarah, qui était venue dans un pays avec son papa et sa maman.
Et puis, après, s'ils ne reviennent pas avec leur deuxième chance... Ils ont la chance de revenir à cette école, mais s'ils n'arrivent pas à revenir, et ben ils vont retourner dans leur pays. On ne sait pas ce qui va se passer.
Et on vous a dit où elle était, Sarah, pour l'instant ou pas?
Quelque part, dans une prison.
Dans
une
prison.
On s'est dit qu'on voudrait bien que Sarah reste. Oh. Du coup, on a demandé à notre maman de savoir si elle pouvait rester.
Moi, et pourquoi vous aimeriez qu'elle reste, Sarah?
Parce que moi, en voyant son cahier, on dirait qu'elle comprend notre langage. Elle avait très bien.
Et aussi parce que j'imagine, moi, si j'étais renvoyée dans un pays, donc ce serait triste.
Oui. Oui. Qu'elle avait des très bien, des biens.
Mais pourquoi pas?
Moi, je dirais qu'elle pourrait revenir à l'école.
D'accord, bah alors on va essayer de demander qu'elle revienne dans votre école.
Oui, ce serait bien gentil hein, quand même. Ce serait bien gentil qu'elle reste dans notre école.
Notre boulot à nous, les journaleux, en principe, ben, c'est d'être un miroir de ce pays chaque jour, de refléter, de raconter, de vous dire qui vous êtes, enfin, de montrer aux uns comment vivent les autres, de façon à ce que, grosso modo, on ait une idée du pays dans lequel on vit, de ce qu'ils font les gens, de ce à quoi ils aspirent, ce à quoi ils croient, ce qui les indigne, ce qui les fait rigoler, ce qui les fait pleurer, etc. Quand on entend ce qu'on vient d'entendre, on s'aperçoit qu'on se trompe énormément, nous autres, les journalistes. Ces enfants qui sont aussi pertinents, aussi conscients, qui ont pigé, qui ont 7 ans, 8 ans, sont les enfants de l'école de Fontaine-Saint-Martin, un patelin au nord de Lyon, 2124 habitants exactement, on vient de vérifier. Et pourquoi je dis ça? Parce que c'est une drôle de France, celle du réseau Éducation sans frontières. D'ailleurs, on va voir que la plupart des gens de ce village, de cette petite ville, comme de Lyon, comme d'ailleurs, ne sont pas forcément liés à ce réseau d'éducation sans frontières, attachés à ce que au moins les enfants des sans-papiers aient droit à cet enseignement qui est inscrit dans la loi. Au moins que ces enfants, selon la loi, en accord avec la loi de l'ordonnance de 1945, que je rappelle, l'étranger mineur de moins de 18 ans ne peut faire l'objet ni d'un arrêté d'expulsion, ni d'une mesure de reconduite à la frontière en application de l'article 22, eh bien, ne soit pas traité comme le sont aujourd'hui les enfants. Alors, je dis tout ça parce que vous allez voir l'indignation, la surprise, l'étonnement de cette France, je n'ose pas dire profonde, non, on peut dire la France tout court, eh bien, on la sent pas d'habitude, on la montre pas d'habitude, on attend qu'elle soit quelque chose de plus fort se passe, d'excessif, de violent, etc. Ça fait partie aussi de notre boulot. Là, c'est une autre France qu'on va sentir. C'est une autre indignation, c'est une autre une tristesse, quelque chose qui ne va pas profondément, qui ne va pas avec ces lois sur l'immigration, sur les sans-papiers, la façon de les traiter, notamment dans ces centres de rétention. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont ces enfants dont on parle là, Léa, 18 mois, et Sarah, 3 ans? C'est l'histoire de la famille Ali qu'on a présentée hier, qui était en rétention depuis le 16 octobre. Ce sont des gens d'origine albanaise qui ont été arrêtés alors qu'ils devaient passer au tribunal le 13 novembre. La famille était en train de rassembler les éléments nouveaux justifiant une nouvelle demande d'asile. Ils étaient arrivés en France en janvier 2006 au centre d'accueil des demandeurs d'asile de Fontaine-Saint-Martin où nous sommes avec les enfants. Et à la suite d'un changement de régime en juillet 2005, M. Ali, qui était garde du corps, a été blessé dans un attentat contre un député socialiste, celui qui l'accompagnait. M. Ali en a gardé des séquelles du système auditif. Il a été ensuite menacé de mort et son frère qui faisait etc. etc. Enfin, des gens qui sont menacés. C'est-à-dire que ce qui est clair, ce qui est avéré, l'avocate qui les défend le disait hier, leur retour en Albanie met leur vie et leur sort en péril. Voilà avec qui nous sommes. C'est difficile d'être avec eux. C'est par téléphone qu'on va communiquer dans ce centre de rétention parce que les journalistes n'y sont pas désirables. Même si hier, Pascal Pascariello, vous l'avez entendu, est entré malgré tout dans ce centre. Vous pouvez réécouter l'émission d'hier. Voilà où nous en sommes. La famille est à l'intérieur de ce centre et nous, à l'extérieur, c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis. Au revoir les enfants.
Je suis un sans-papier, je suis un ouvrier, je suis comme le vent, j'ai la rage aux dents, je parle tout haut, je siffle faux. Il paraît que chez toi, ouverts sont les bras. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Un oublié, je ne fais que passer sur mon tapis volant. Je n'ai pas 10 ans quand les bouches du métro vomissent des troupeaux. Il était une fois chez toi, c'est chez moi. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte. Puisque c'est comme ça, je t'invite chez toi. Quand il n'y aura plus que moi, je m'expulserai. À ma porte, moins on est mieux, je me porte. Ne frappe pas à ma porte.
Je suis du comité de soutien. Donc...
Bon, Philippe, je pose ma fille.
Ok, ouais.
C'est les grandes sections. Et la maternelle, c'est là-bas.
C'est plus loin. D'accord, c'est là où était Sarah.
C'est là où était Sarah, voilà.
Vous connaissiez les parents de Sarah ?
Ben oui, on fait, oui, bien sûr. Enfin, un petit peu du fait du comité de soutien, quoi.
Ah, vous attendez vos enfants ?
J'attends ma fille.
D'accord.
Voilà. Et après, je l'amène avec moi pour se montrer, en espérant que ça... Ça va nous permettre d'atteindre l'objectif, hein, parce que l'objectif, c'est que, un, ils soient libérés du centre de détention. Enfin, vous connaissez un peu l'histoire ?
Racontez-moi un peu.
Ben, l'histoire, ce sont des gens qui sont venus d'Albanie il y a à peu près 2 ans. La mère était enceinte de 8 mois, une petite fille de 1 an et demi. Et lui, il avait des menaces sur sa vie en Albanie de par son métier. Il était garde du corps d'un homme politique. Son frère s'est fait tuer. Donc, est-ce que c'est des mafias ? On ne sait pas trop exactement. Donc, lui, devant cette situation, après avoir survécu, il a décidé de venir en France. Et depuis, il s'est retrouvé au CADA, c'est un foyer de demandeurs d'asile sur la commune. Il a fait une demande de droit d'asile, hein, pour avoir le statut de réfugié politique, qui a été une première fois refusée. Et dernièrement, donc, les policiers sont venus le 16 octobre le prendre, alors qu'il était en cours de préparation d'un nouveau recours, devant de nouveaux faits, parce que sa mère s'est faite agresser sur place.
En Albanie,
voilà. Et donc, devant cette situation, nous, le fait que, un, ils soient enfermés avec des enfants en bas âge, deux, leur situation quand même mérite peut-être qu'on s'y attarde et qu'on ne les mette pas dans les statistiques des 25 000 personnes qu'on veut renvoyer sans discernement à la frontière, comme ça. On a décidé de se réunir à plusieurs, à Fontaine-Saint-Martin.
Vous êtes père de famille, une petite fille qui a quel âge ?
Qui a 8 ans et demi, voilà. Qui n'est pas du tout dans la même classe que Sarah, hein, mais bon, on est quand même alerté, à la fois en tant que citoyen, et aussi en tant que parent d'élève, parce que les enfants qui sont à l'école et dans la même classe que Sarah, ils se posent des questions. C'est pas normal. On aurait pu très bien les laisser dans leur foyer au CADA, d'autant plus qu'ils allaient peut-être avoir un appartement. Et puis que les recours vis-à-vis du statut de réfugié se prolongent et aillent jusqu'au bout. Ils étaient en voie d'intégration. Je vous emmène.
C'est le comité de soutien.
C'est le comité de soutien.
D'accord. Donc voilà. Tous réunis devant l'entrée de la maternelle, c'est ça, non ?
C'est là, ouais.
Là, on est devant en fait de l'école où était Sarah. Vous êtes les deux enseignantes de ce groupe scolaire, voilà. Qui est à Fontaine-Saint-Martin.
Oui. C'était la deuxième année qu'elle était scolarisée dans l'école, chez les petits. Elle était très bien intégrée dans l'école, très présente, et ses parents également. On ne l'a plus revue du jour au lendemain. Voilà. Les enfants, ils se posent des questions. Pourquoi n'est-elle plus là ? Pourquoi on met sa chaise, etc.
Qu'est-ce que vous avez expliqué à vos élèves alors ?
C'est difficile d'expliquer.
Oui, en maternelle, c'est très difficile.
Les enfants nous ont interrogés parce qu'ils avaient des frères et sœurs aussi dans la classe de Sarah.
Nous, c'est en maternelle, c'est la peur qu'il lui arrive quelque chose, que dans son pays, elle se fasse taper. Ou... C'est plus du côté de la peur, de l'inconnu, qu'est-ce qu'elle va retrouver. Et puis en plus, dans la classe, on se pose des questions parce qu'il y a aussi un autre petit enfant qui est dans une situation aussi pas facile. Donc on a aussi peur qu'il parte à son tour.
C'est violent, je pense que c'est en tant que parent aussi. Les gens réagissent, la communauté de Fontaine-Saint-Martin réagit, quelles que soient les opinions des gens, quelles que soient...
C'est humain. De les voir à travers la vitre, là, en train de nous faire un malheureux coucou, entourés de dizaines de policiers, hein, comme lundi, on a vu.
Lundi, vous avez vu ça ?
Oui, il y a eu un parrainage devant le centre. Donc,
Devant le centre de rétention, il y a eu un parrainage. En fait, là, c'est cas exceptionnel. D'habitude, ça se fait dans des mairies. Et là, on a dû le déplacer en centre de rétention.
Oui, mais les enfants n'ont pas eu le droit de sortir.
En fait, ils nous entendaient par l'intermédiaire d'un téléphone portable. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont le droit de voir ou d'entendre.
C'est pourquoi c'est une dame. Je demandais ça, c'est qui dans le téléphone.
Comment tu t'appelles ?
Je m'appelle Pascal. Et toi ?
Sarah.
Toi, Sarah, tu fais quoi là ?
Rien.
C'est pour ça que je pleure beaucoup. J'inquiète. Je ne sais pas comment faire. Pio, Evo, Glacio, Kurkemi, Urektu, Nizet, Nidite,
Je suis très impressionnée parce que ici à côté de moi, c'est vrai, il y a ma fille, elle tousse. Là, sa situation, du point de vue de santé, elle ne va pas très bien.
C'était
psychologiquement, ça c'était mieux. Si elle me prend, elle me met directement à l'avion que de me mettre ici parce que la situation devient de plus en plus lourde, surtout pour les enfants.
C'est Sarah qu'on entend ?
Non, c'est Léa.
C'est Léa, votre plus petite fille.
Voix de Gloria, la maman, et des enfants derrière les barbelés, avec la télésurveillance, avec les projecteurs allumés même la nuit. Drôle d'image, drôle d'ambiance, même si on se retient de faire certaines comparaisons et certaines époques, c'est quand même quelque chose de choquant et qui en choque plus d'un. Pas seulement les professionnels de l'indignation. Au téléphone, donc, par téléphone, et uniquement par téléphone, des nouvelles et des voix qui sont à quelques mètres de nous, en France, et qui ont l'air d'être de l'autre bout du monde, d'un autre monde, d'un autre temps.
C'était interdit de travailler, mais je pouvais trouver facilement du travail. Je voudrais maintenant m'occuper de ma famille. Je suis déjà... C'est une expression brûlée de cette situation. Je veux tout simplement travailler pour gagner de l'argent pour la famille et pour moi-même, c'est-à-dire pour survivre. Mon première préoccupation, c'est le côté psychologique de Sarah, parce qu'elle commence à comprendre un tout petit peu. Et bien sûr aussi pour la deuxième fille, Léa. Je vois Sarah, elle me parle toujours de ses copines ou de ses copains de l'école, parce qu'elle est allée à l'école, et elle me parle souvent de cette époque-là. On a même le cartable. Et elle prend toujours cette cartable, elle se met dans un coin et commence à feuilleter les livres. Voilà, c'est ça que je vois et je trouve que c'est ça mon première préoccupation.
Oui.
Tous les jours, j'attends. J'ai peur parce que c'est une semaine décisive. À chaque fois, quand il y a quelqu'un qui frappe à la porte, nous, on est très inquiets, on est très anxieux. Et surtout, quand il y a des gens qui circulent pendant la nuit, soit pour des besoins personnels ou d'autres choses, nous, on est toujours inquiets par rapport au bruit qu'on entend dans le couloir. Je ne dors pas du tout.
Et donc, là, si elle retourne en Albanie, elle craint...
Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec nous. Je vais vous répondre avec une expression figurative. On va chez le boucher. S'il nous met dans l'avion, on va atterrir chez le boucher.
Allô, Gloria.
Oui, Pascal.
Aujourd'hui, Gloria, on en est où ? 31 jours ? 31 jours de rétention ?
Oui. Demain, jusqu'à 14h.
Jusqu'à 14h. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on peut se rappeler demain ?
Oui.
Vers 14h midi ?
Oui, tu fais sonner. Parce que je ne sais pas si c'est 14h, je pense, sort ouais. D'ici. Crois le doigt comme ça.
Vous croisez
oh
les doigts.
Oh là là, comment on fait pour dormir?
Vous n'arrivez plus.
Je ne pense pas dormir. Oh là là. Ça va passer.
Gloria Evangelos
n'est pas disponible pour le moment. Veuillez laisser un message après le bip. Après votre message, vous pourrez le modifier en tapant 1.
Il y a la chaise vide à l'école et il y a le portable qui ne répond plus. On se tourne vers Mireille Peloux, qui aide RESF le jour de l'expulsion, parce qu'il y a expulsion, de la famille Ali.
Mireille Pelou, vous êtes...
Je suis de RESF à Lyon. Ça fait 32 jours exactement qu'on soutient la famille Ali qui a été arrêtée le 16 octobre. Le portable ne répond plus. La fin de la rétention était aujourd'hui à 14h.
Il faut bien expliquer qu'a priori, au bout de 32 jours de rétention, on est libéré. On est plus
au bout de 32 jours, effectivement, la famille était libre aujourd'hui à 14h. Libre, ça ne veut pas dire régularisé. Hein. Ils restaient en situation irrégulière, ils restaient sans papier, mais ils étaient mis en dehors du centre de rétention, aujourd'hui à 14h en théorie. Ce matin, quelqu'un est allé les voir au centre de rétention et donc était devant le centre de rétention à midi quand elle a vu une voiture partir du centre de rétention avec la famille Ali, ce qui veut dire qu'ils sont en train d'être expulsés. On ne sait pas d'où. Bien évidemment, une fois de plus, c'est une expulsion en catimini, la dernière minute, de façon à ce qu'il y ait le moins de bruit possible, j'imagine. Avec des enfants qui sont une née en France, l'autre pas née en France, mais qui ne connaît que la France, qui attendait de retourner à l'école. Depuis 32 jours, cette famille est en prison. Depuis 32 jours, cette famille vit dans l'angoisse de l'expulsion. Depuis 32 jours, Sarah n'a plus fréquenté l'école, ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas aller à l'école. Voilà. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'est-ce qui va leur advenir en Albanie. Enfin voilà, les moyens sont démesurés par rapport à une famille qui n'a rien demandé à personne, si ce n'est que de vivre ici en France. Ça, c'est de l'acharnement, quoi. Je sais pas quel mot on peut employer là maintenant, mais c'est de l'acharnement.
Et puis, il y a ceux qui font le boulot, qui font la besogne, des braves gars qui se lèvent le matin, qui embrassent leurs enfants, leurs femmes, et puis qui s'habillent. Et leurs habits, c'est un uniforme. C'est un uniforme. Ce sont des policiers qui, ce jour-là, font ce boulot-là. Le boulot de reconduire des familles, c'est ce genre de famille. Et les enfants de 18 mois, de 3 ans, qu'il faut réveiller le matin et qu'il faut attraper, et qu'il faut mettre dans des véhicules jusqu'à des avions qui les rembarquent chez eux. Alors, parmi ces gars-là, il y en a à qui ça plaît qu'à moitié. À moitié seulement. Laurent.
Donc, j'ai exercé la fonction d'escorteur de 2003 à 2006. Donc, lorsque j'effectuais ma fonction d'escorteur, donc j'étais commandé la veille pour une mission le lendemain, donc je me rendais dans un aéroport lorsque j'étais commandé. Nous expliquions à la personne expulsée que nous étions là en fait pour la ramener dans son pays suite à une instruction du gouvernement.
Vous étiez habillé en tenue de policier ?
Non, les missions de reconduite à la frontière s'effectuent en tenue civile, puisque nous sommes policiers en France, mais lorsque nous sortons du pays, nous n'avons aucune autorité dans les pays où nous nous rendons. Nous ne pouvons pas nous promener en uniforme. Ça permet de voyager le plus anonymement possible. Alors, nous montons les personnes à bord des avions, nous les montons menottées ou attachées.
Mais ça, Laurent, expliquez-moi justement, parce que le cas d'un jeune Éthiopien qui est décédé, étouffé, parce que justement, pour pas qu'il crie dans l'avion...
Personnellement, lorsque j'effectuais ces missions d'expulsion, et que la personne avait les menottes et avait sa ceinture de sécurité sur son siège passager, personnellement, quand la personne commençait à être violente et à crier, moi, je m'éloignais pour que les autres passagers remarquent que nous ne touchons pas la personne. Alors, le seul maître à bord de l'avion, c'est le commandant de bord, et c'est lui qui décide si nous pouvons continuer la mission ou si nous devons descendre de l'avion. Ça m'est arrivé de souhaiter que la personne crie, se roule par terre pour descendre de l'avion, parce que ces personnes ne méritaient pas d'être expulsées. Ce sont des personnes qui se conduisaient extrêmement bien. Bon, leur seul délit, c'était de ne pas avoir de papier et de travailler clandestinement. Et encore, comme on est soumis à un objectif de 25 000 pour l'année 2007, je pense qu'on ne regarde plus vraiment les dossiers au cas par cas et qu'on prend n'importe quelle personne qui n'a pas de papier sans se soucier de sa situation sociale, familiale, et on l'expulse pour atteindre un chiffre et pour mettre un bâton dans une case.
À C'était un avion blanc. Primitif. Privé.
C'est primitif, juste.
C'était un petit avion. C'était un petit avion.
Dhe mua më tha jo, gruaja se a kërkova asaj policës, se thash unë, ku u gjenë kjo orari, thash unë, se s'kishtë ora.
Kënë gjë
demandé
à la dame policier, comment vous avez trouvé cet horaire? Parce que vous avez dit avant qu'il n'y avait pas un avion, et elle m'a répondu.
Dhe më tha jo, gruaja që ne jemi nga Parisi, dhe kemi ardhur posaçërisht për vu, kemi ardhur vetëm për juve, se ne këshu punojmë ta shita, deri në 31 djetor, sa që e ka vënë Sarkozia, ne këshu punojmë ta.
Elle m'a expliqué que on est venu de Paris pour vous, parce que jusqu'à 31 décembre, nous on fait de tels vols réguliers pour rapatrier des personnes. Je pense que c'est une politique déjà commencée par le président Sarkozy. Et il m'a expliqué qu'on est venu de Paris à Lyon pour vous. Exprès.
Elle est Lyon-Tirana.
Et puis c'est direct Lyon-Tirana sans escale.
Au départ, on pense que on va découvrir d'autres pays, d'autres populations, d'autres civilisations. Et on s'aperçoit très vite que c'est un travail qui est assez ingrat à effectuer, puisqu'on peut être amené à expulser des gens qui... mériterait de rester ici.
Vous pouvez m'en parler, justement ?
Alors, c'était une personne que nous devions conduire à Amsterdam et mettre dans un avion, depuis Amsterdam, la mettre dans un avion pour l'Amérique du Sud. Donc, cette personne, c'était une mère de famille qui était expulsée avec sa petite-fille de 8 ans, également son fils, qui devait avoir environ 5-6 ans. Et donc là, je peux vous dire que ça vous cause un réel problème de conscience quand vous voyez la maman qui ne comprend pas ce qui se passe, quand vous avez la petite fille qui vous sert d'interprète, une petite fille qui est bien intégrée dans la société française, qui parle couramment le français, qui va à l'école, une petite fille de 8 ans qui s'occupe des papiers de sa maman, tout ce qui est administratif, et cette petite fille qui vous demande « Mais pourquoi ? Pourquoi, monsieur ?» Parce que cette petite fille ne comprend pas pourquoi on l'enlève. Elle est arrivée ici en France toute petite, on l'enlève de son école, elle a ses camarades, ses voisins, ses amis, sa maîtresse, et là, elle ne comprend vraiment pas pourquoi les policiers l'expulsent. Donc là, je peux vous dire que vous vous sentez très très mal. J'ai des enfants, et à l'époque de cette mission, j'avais une petite fille du même âge. Et là, je pense que ça ne fait pas partie vraiment des attributions de policier d'emmener une petite fille comme ça avec sa maman. Ça, expulser des enfants, c'est un sale boulot. Un sale boulot.
La police, c'est la police, ils font leur métier.
Allons, Dédé, reste tranquille. Ah,
il y avait 6 policiers hommes et 2 policiers femmes, donc il y avait 8 policiers en tout qui nous accompagnaient.
Do vini në banjë, se nuk u ka tualet aty sa. Ktu ose vetë për të vajtur për nevoja personale, shko?
Ils nous ont demandé de... Est-ce que vous avez besoin d'aller aux toilettes? Parce que dans l'avion, vous n'avez pas la possibilité de faire les besoins naturels. Ils ont contrôlé mon mari.
Nuk ja pash unë.
Ils ont lié les mains.
Në me thëmë shu që pëngjita shë zura për qanja, për isë shë grave, që ata në lanë, ikën ata. Baruan ata të sentër. Me thëmë aty ku në ambanin. Po mereshin këta të tjere të ashe.
Quand j'ai monté dans l'avion, ou même pendant les escaliers, en train de monter, j'ai commencé à pleurer. Et la petite fille Sarah, elle m'a dit, pourquoi tu pleures, maman? Tu as peur de l'avion? Mais c'est chouette de monter dans un avion.
C'est des événements de votre vie en tant que policier que vous ne pouvez pas oublier. C'est des choses qui vous marqueront toute votre carrière.
Et du coup, qu'est-ce qu'on peut faire face à ça?
Bah, moi, j'ai quitté ce service. Toute personne normalement constituée, je crois que c'est la seule solution, et je crois que de plus en plus... Alors, effectivement, il y a des criminels, des gens qui sont rendus coupables de délits très graves ou de crimes. Ils n'ont pas à rester en France, mais il y a d'autres personnes qui mériteraient qu'on s'attarde sur leur dossier et qui mériteraient de rester en France. Je pense que la politique de l'immigration est devenue aveugle. Si vous avez un minimum de conscience et un minimum de réflexion, lorsque vous y pensez, vous dites, mais c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? C'est ce que vous dites.
C'est ce que vous êtes dit, en tout cas.
Moi, j'ai fait une connerie.
Garder en tête.
Et cette petite fille nous a montré au cours de ce voyage ses dessins, ses cahiers d'école, etc. À partir de ce moment-là, vous réfléchissez et vous vous dites, finalement, ce boulot, c'est pas pour moi. C'est ce que je me suis dit. C'est extrêmement difficile. J'effectuais cette mission en traînant les pieds, dès le départ. Dès le départ, nous étions trois escorteurs et nous avons traîné les pieds. Nous n'avions pas envie de les mettre dans cet avion. Nous n'avons pas vraiment d'alternative. Nous avons un ordre de mission, nous avons des instructions. Nous sommes obligés d'effectuer cette mission. La seule chose que nous pouvons faire, parfois, c'est indiquer à l'expulsé le mode opératoire pour se faire descendre de l'avion. Si nous lui...
Vous, Laurent, ça vous est arrivé, ça?
Ça m'est déjà arrivé de dire à une personne de faire du scandale dans l'avion pour qu'elle ne soit pas expulsée. Seulement, bon, après, j'ai expliqué à cette personne les sanctions qu'elle encourait. Mais à ce moment-là, un refus d'embarquement est considéré comme un délit et cette personne soit retourne dans un centre de rétention et est renvoyée sur un avion le lendemain ou le surlendemain, ou est présentée à un juge et peut être incarcérée par décision de justice pendant un mois, trois mois, voilà.
Ça arrive, 2 minutes. Je vais venir, quoi, là.
Ça y arrive, ils ont soif, ils ont faim, il y a la télé qui est tombée en panne, ils ont envie d'aller aux toilettes, donc ils ont plus qu'à temps, ils appellent un responsable pour se faire accompagner.
Alors, cette politique d'immigration n'a pas vraiment de réels bénéfices dans le pays même. Par exemple, un Malien qui travaille en France, les statistiques le prouvent, peut faire vivre 25 Maliens dans son pays. Donc, je pense que le seul moyen de régler l'immigration, et c'est l'avis de beaucoup de mes collègues, c'est aider ces pays à la source. C'est-à-dire que au lieu d'expulser des milliers de gens, c'est extrêmement onéreux. Alors, chaque étranger est expulsé par 2 ou 3 policiers. Donc, lorsqu'on compte le prix du billet d'avion pour les 3 policiers aller-retour, le prix du billet d'avion pour la personne expulsée, l'aide au retour s'il y en a une pour l'expulsé, les salaires des policiers qui rentrent également en ligne de compte, toute la logistique derrière, je pense que pour un expulsé, on peut parler d'un chiffre de 15 000 euros par individu. Donc je pense que si on aidait les pays à la source à s'industrialiser, à se développer, il y aurait moins de candidats à l'immigration. Moi-même, si je suis policier aujourd'hui en France, si demain on me dit aux États-Unis, ben monsieur, vous allez multiplier votre salaire par 10, je prendrai mes bagages et je partirai avec ma famille aux États-Unis. C'est tout à fait logique.
Tout à fait logique, et pourtant, vous avez compris, Gloria et Ali et leurs enfants, Léa, 18 mois, Sarah, 3 ans après 32 jours de rétention, ont été reconduits en Albanie.
Я завітаю, що ти шкала, ти Тарас, усе там фільми Тарас.
De ma fenêtre, je vois les escaliers qui mènent à la terrasse de la maison. Et le parti en face de la terrasse, de notre terrasse. Et je ne vois pas grand-chose. Quand nous sommes arrivés en Albanie, il y a plusieurs choses que je ne les ai pas prises en Albanie. J'ai pu prendre seulement le chariot pour la petite fille, quelques petits vêtements pour nous et pour les filles, et j'ai laissé quasi la majorité des choses sur place. Je ne suis pas venu en France pour des plaisirs, pour des vacances. Mais si la France ne voudrait pas, je ne voulais pas qu'elle nous retourne en Albanie. Je voudrais qu'elle nous envoie dans un autre endroit, mais pas en Albanie. Je suis un peu émotionnée de voir les filles ici. J'ai peur de les laisser sortir dehors et je les garde pour l'instant dans la maison et ne sort pas.
Pardon, Pascal, je suis très, très triste. Je suis...
Allô, Gloria. Bon, ça a coupé. On va réessayer peut-être.
Allô.
Allô, Gloria.
Gloria.
Non, pour nous couper la batterie, ore.
Ah, c'est l'histoire de batterie.
Si, ben, c'est ce qui m'est drita pour ta caricoua.
Il n'y a pas d'énergie électrique pour charger.
Gloria.
...80% d'augmentation de reconduite à la frontière, monsieur Brice Hortefeu, hier, s'est félicité de ses bons résultats, de ses propres bons résultats. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Merci à toutes et tous, merci à Gloria Yandouche Ali, à Gilles Viard, du syndicat de la police SGP-FO, à Madeleine Joron et à Felice, à Marie-Noëlle Fréry, à Sylvie Chancel de la CIMAD et à Artane Courta pour la traduction. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le rapport de la CIMAD. Allez sur le site de la CIMAD, www.cimad.org. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez réécouter cette émission. Vous pouvez également la réécouter sur là-bas.org, là-bas.org. La technique aujourd'hui, c'était Patrick Henry et Sophie Moreno, c'est Yann Chouka et Koyen Guyenne qui ont réalisé cette émission assistée de Charlotte Perry, et c'est Christophe Imbert lui-même en personne qui attend vos messages au répondeur de la base si j'y suis, dont le numéro, vous le savez bien, est le 01 56 40 37 37. Et puis encore une petite chose, hier j'ai parlé du plan B, le journal Le Plan B, et j'en ai dit énormément de mal. Alors il y a des auditeurs qui ont dit c'est quand même terrible de dire du mal de ce journal. Eh bien je continue, je vous interdis de lire ce journal qui vient de paraître hier dans son numéro d'été. C'est vraiment la honte de la presse française, il est en vente partout, vous pourrez le constater, vous pourrez le feuilleter pour voir si j'ai raison ou tort de considérer que c'est vraiment le nouveau journal bête et méchant. Il nous reste encore quelques instants et on va se mettre ça dans nos oreilles.
C'est que la France ne peut pas être le seul pays au monde qui ne puisse décider de qui est accepté sur notre territoire et de qui n'est pas le bienvenu.
Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie?
Il s'appelle Nicolas Sarkozy, il a inventé l'immigration choisie. C'est l'histoire d'un fils hongrois qui veut se faire couronner chez les Gaulois. Fini l'époque du négro musclé, belle dent. Aujourd'hui, il veut du noir diplômé, intelligent. C'est c'est ça le critère du nouveau négrier qui a le culot d'aller en Afrique pour l'expliquer.
Dis-moi, Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? Nicolas Sarkozy, pourquoi ton père a fui la Hongrie? S'appelle Sarkozy Nicolas. Il dit si t'aimes pas la France, tu t'es là. Il dit aussi qu'il n'a rien contre les Africains. Seulement la France n'a plus assez de pain. Il s'appelle Nicolas Sarkozy.
Voilà, pas mal pour finir la semaine quand même. Hein, 15h59, minutes et 30 secondes sur France Inter. Un peu de réclame.